Merci à l'Observatoire du SIDA des sexualités pour cette invitation. Donc je vais vous proposer dans un premier temps, puisque le reste des interventions aujourd'hui vont être plutôt sur ce qui se passe en Europe, de partir un petit peu plus au sud, à 8000 km en Afrique australe. Et je pense que c'est important de s'en souvenir, puisque c'est un contexte qui est complètement différent. Nous sommes dans des situations d'épidémies hyper endémiques, comme elles sont présentées, c'est-à-dire de plus de 15% de la population générale qui est infectée. Et dans la zone dans laquelle je travaille, on est sur une moyenne de 25%, avec une variation spatiale. Donc dans certaines zones, on est à plus de 50% de prévalence, c'est-à-dire un adulte sur deux infecté par le VIH. Donc on est dans un contexte qui est très différent de ce qu'on observe en Europe, mais surtout, c'est que la notion de population à risque ou population à haute incidence, c'est tout le monde. Une jeune femme a grosso modo 80% de chances de s'infecter par le VIH au cours de sa vie. Ceci étant posé, alors effectivement je travaille sur la Côte d'Ivoire et sur l'Afrique du Sud, je vais parler plutôt de l'Afrique australe aujourd'hui, et quand je vais parler de dépistage et traitement universel, on pourrait se dire on est dans la situation du TAS, du traitement comme moyen de prévention, mais c'est une perspective un petit peu différente. Beaucoup de débats autour du TASP tournent par exemple autour de la transmission au sein du couple ou comment gérer la question du préservatif ou de la non-utilisation du préservatif dans le couple. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la perspective population. Peut-on, à l'échelle d'une population, réduire significativement les nouvelles infections ? Sachant qu'il y a des enjeux qui sont majeurs dans un contexte sud-africain, et pour aussi comprendre comment le traitement a déjà eu des évolutions importantes dans la zone dans laquelle je travaille, en 10 ans, c'est-à-dire les traitements sont arrivés en 2004. Entre 2004 et 2010, l'espérance de vie a gagné à l'échelle de la population 10 ans. On ne voit quasiment jamais une telle évolution de l'espérance de vie et de la mortalité dans une population humaine. L'autre élément qui est très visible, c'est qu'on est passé en 10 ans de 9 magasins de pompes funèbres à 2. C'est-à-dire qu'il y a une prégnance qui est très présente socialement. Alors, je vais aller vite sur ces premières diapositives. Vous en avez déjà dû en parler relativement. L'utilisation des antirétroviraux dans un contexte préventif n'est pas une nouveauté. Depuis 1994, ça a été utilisé avec succès dans le cadre de la prévention de la transmission de la mère à l'enfant. C'est également le principe sous-jacent de la prophylaxie post-exposition, le traitement d'urgence. Et puis, il y a quand même de nombreuses recherches en cours sur les microbicides à base d'antirétroviraux ou la prophylaxie pré-exposition avec des résultats qui sont plutôt encourageants. De la même manière, les antirétroviraux permettent de contrôler la charge virale, qui est le principal déterminant de la transmission sexuelle. Rien de nouveau sur ce que vous avez déjà vu. Je reviens très très vite sur la déclaration suisse de 2008, mais qui a été quand même un élément déclencheur des débats internationaux, puisque affirmant que les personnes séropositives ne souffrant d'aucune autre MST et suivant un traitement antirétroviral efficace ne transmettent pas le VIH par voie sexuelle. Et ça a ouvert notamment la question: peut-on réduire la transmission du VIH par l'utilisation d'antirétroviraux au niveau individuel, mais aussi au niveau populationnel? Et c'est sur cette idée-là qu'est publié un modèle mathématique dans le Lancet en 2009, le modèle dit Granich. Ce que dit ce modèle, qui a été fait sur des données sud-africaines, c'est qu'un dépistage universel suivi d'une thérapie antirétrovirale immédiate pourrait éliminer la transmission du VIH, c'est-à-dire qu'on pourrait éradiquer en 20 à 30 ans l'épidémie dans un pays tel que l'Afrique du Sud. Et puis, vous avez probablement aussi également entendu parler dans les précédentes journées de l'essai HPTN 052 publié en 2011. Donc, c'est un essai sur des couples sérodifférents. Dans un bras, vous avez des personnes qui sont mises sous traitement selon les recommandations nationales. Dans l'autre bras, on a une mise sous traitement immédiate. Et lorsqu'il y a initiation précoce du traitement, on a une réduction du taux de transmission hétérosexuelle du VIH de 96%. En fait, dans ce bras-là, il n'y a eu qu'une seule transmission au sein des couples qui a eu lieu et qui a eu lieu au début du traitement. Par contre, ce qui est moins souvent dit, c'est qu'il y a eu quand même de nombreuses transmissions dans ce bras-là du partenaire séronégatif, mais les analyses phylogénétiques sur les virus montrent que la transmission a eu lieu en dehors du couple. Alors, une stratégie de dépistage, ce type d'approche, Universal Test and Treat, a quelques implications pour le dépistage, puisque pour être efficace, il est nécessaire que la quasi-totalité des personnes infectées par le VIH soient identifiées, diagnostiquées et référencées vers le soin, qu'elles soient diagnostiquées le plus tôt possible après l'infection, puisqu'il s'agit de réduire la période pendant laquelle elles vont pouvoir transmettre le virus, et que la quasi-totalité des personnes VIH+, identifiées et diagnostiquées, soient mises sous traitement antirétroviral et aient une virémie contrôlée. On a donc besoin d'une couverture universelle du dépistage. que le dépistage soit répété à intervalles réguliers pour dépister les personnes au plus tôt après l'infection. Et enfin, qu'on ait un référencement et une prise en charge qui soit efficace. Le modèle Granich dit aussi quelques autres choses. En premier lieu, donc, dans le contexte sud-africain, on pourrait arriver à l'élimination du VIH, c'est-à-dire que R0 passerait en dessous de 1. Alors, qu'est-ce que R0 en épidémiologie ? C'est le taux de reproduction, c'est le nombre moyen de personnes qui seront infectées par une personne elle-même infectée. S'il est supérieur à 1, ça veut dire que chaque personne infectée va infecter plusieurs autres personnes, l'épidémie se répand. S'il est inférieur à 1, chaque personne infectée infectera en moyenne moins d'une personne, l'épidémie va se réduire. Et donc, pour éliminer le VIH, il faut qu'on atteigne ce R0 inférieur à 1. Et c'est possible uniquement à certaines conditions. Dans le modèle de Granich, il fait deux hypothèses, que 90% de la population est testée, que 90% des personnes diagnostiquées VIH+, sont sous traitement antirétroviral. Et puis, vous avez un petit graphique à droite qui n'est pas forcément très lisible, mais qui montre en fonction d'autres paramètres du modèle, ce qu'on veut, c'est la zone verte. Et cette zone verte, qui indique qu'on a une épidémie contrôlée, un R0 inférieur à 1, s'obtient uniquement si les personnes VIH donc négatives au premier test sont retestées au moins une fois par an. C'est-à-dire que dans ce modèle, si les personnes ne sont retestées que tous les 2 ans ou les 3 ans, on n'atteint pas l'élimination. De la même manière, dans le modèle, on arrive à l'élimination si les personnes démarrent le traitement à plus de 800 CD4. Par contre, si on démarre un traitement qu'à 300 CD4, on n'arrivera pas à l'élimination. Donc autrement dit, ce que dit le modèle de Granich, c'est qu'on peut atteindre potentiellement une élimination de l'épidémie dans des contextes hyper endémiques comme l'Afrique du Sud, mais à des conditions qui sont assez restrictives, qui sont des niveaux de couverture du dépistage, de couverture du traitement particulièrement élevés. Alors après, il y a un débat chez les modélisateurs sur les conditions exactes. Est-ce que c'est 800, est-ce que c'est 400, est-ce que c'est tous les ans et demi ? Il peut y avoir débat, mais sur le principe, on comprend bien que l'idée d'une élimination du VIH ne sera atteignable que dans un contexte extrêmement de couverture extrêmement massive. Autrement dit, il faut arriver à ce traitement universel et on voit bien que le traitement universel ne peut pas être possible s'il n'y a pas un dépistage universel en amont. Alors, quelques informations sur la littérature, pas forcément la plus récente, mais celle d'il y a jusqu'à 2 ans. On voyait que les hypothèses de Granich sont 90% de la population testée, 90% des VIH+ sous traitement. C'est des taux qui sont bien plus élevés que tout ce qui était observé jusqu'à ce jour. Dans un contexte africain, cinq études qui portaient sur du dépistage à domicile, en Afrique du Sud, montraient une acceptabilité de l'ordre de 50 à 92%. Donc il y a une étude qui atteint 90%, mais la plupart se situent en dessous. Et puis, si on réfléchit à l'initiation du traitement antirétroviral, pour 100 patients africains qui sont dépistés pour le VIH, donc là, c'est plus large que l'Afrique du Sud, donc une fois qu'ils sont dépistés, seuls 72 ont eu une mesure de CD4, donc ils sont entrés en soins et ont fait en tout cas une visite à baseline, seuls 40 s'avèrent éligibles au traitement et seuls 25 ont initié les ARV. Donc, d'une part, il va falloir changer les recommandations d'initiation du traitement, mais au-delà de ça, il y a une vraie montée en puissance des services de santé qui va être nécessaire. Et puis, il y a des éléments un peu nouveaux, puisque le modèle de Granich présuppose aussi qu'on répète le test au moins une fois par an pour les personnes dépistées négatives au début et que les personnes VIH+ initient les traitements à plus de 800 CD4 cellules par microlitre de sang. Le dépistage répété a été peu documenté jusqu'ici. Et ce qu'on trouve généralement dans la littérature, ce sont quelques expériences proposant un second test au bout de 2 ans ou au bout de 3 ans. Donc il y a eu très peu d'interventions à un dépistage plus fréquent du VIH. Il y a quelques cohortes qui sont en train de se mettre en place. Ou sinon, ça a été fait dans des contextes de cohortes cliniques qui sont très atypiques. Donc c'est un sujet qui est encore peu étudié avec une véritable question. On parle de l'acceptabilité d'un second test ou d'un troisième test. Qu'en est-il de l'acceptabilité du 5e, du 6e, du 12e, du 20e ? Là, on parle d'un dépistage répété régulièrement et sur 10 ans, 15 ans ou 20 ans, sur du long cours. Sur le traitement précoce, les choses sont aussi en train d'évoluer assez vite, mais Il y a un certain nombre de questions qui sont ouvertes. Est-ce que la perspective d'un traitement précoce peut influencer l'entrée dans le soin? On va avoir, je pense, des données sur ce qui se passe en Europe. Est-ce acceptable de démarrer un traitement lorsque l'on se sent en bonne santé? Dans un contexte, dans certaines cohortes sud-africaines, il y a des personnes avec moins de 200 CD4 qui refusent le traitement parce qu'elles se sentent en bonne santé et donc elles ne voient pas forcément l'intérêt de démarrer le traitement. En même temps, on manque aussi encore aujourd'hui de données solides sur le bénéfice individuel à démarrer tôt. Il y a des choses sur les réservoirs, mais là on parle plutôt d'une initiation de traitement en primo-infection. Et d'ici la fin du mois, les résultats de l'essai Tom Prano en Côte d'Ivoire vont être publiés. Et là, vont montrer l'intérêt à démarrer entre 350 et 800 CD4, l'intérêt clinique pour les personnes à démarrer très tôt un traitement. Et puis pareil, il y a un certain nombre de questions qui se posent sur l'adhérence et la rétention dans le soin pour des personnes qui démarrent un traitement tôt. Et là encore, il va falloir attendre plusieurs années, puisque les enjeux ne sont pas tant l'adhérence ou la rétention au bout d'un ou deux ans, mais plutôt ce qui va se passer au bout de 4 ou 5 ans. Et donc, il va falloir attendre que les cohortes de patients kinésitos soient observées jusque-là. Alors, sur la question dépistage et traitement universel, il y a quelques essais cliniques. Aujourd'hui, on parle de très gros essais cliniques, puisque à chaque fois, ils vont porter sur plusieurs milliers de personnes. 4 essais randomisés en ce moment. L'essai TASP, Treatment Task Prevention, ANRS 12249, en Afrique du Sud, qui est l'essai sur lequel je travaille. Donc, je vais vous présenter des résultats de cet essai-là. L'essai POPART en Afrique du Sud et en Zambie, donc il y a un essai aussi très gros essai, avec des budgets très conséquents. Il y a l'étude SEARCH au Kenya, en Ouganda, et puis le Botswana Combination Prevention Project. Donc on est systématiquement sur des essais qui sont menés en Afrique australe, dans des contextes de prévalence très élevés. Ce sont des essais populationnels, et donc ils sont assez atypiques dans la manière dont ils sont faits. Au lieu d'un essai clinique classique, on va avoir des gens qui vont rentrer dans un essai, et on va randomisés en fonction des individus. Dans le cas présent, ce qu'on va randomiser, ce sont des zones géographiques. Puisque ce qui est testé, c'est initier un traitement précoce en termes de recommandations de santé publique. Donc on a une intervention sur les personnes VIH+, mais ce qu'on va mesurer, c'est l'impact chez les VIH-. Autrement dit, quelles sont les nouvelles infections chez les personnes non infectées. Donc c'est pour ça qu'en fait, ce sont des zones géographiques qui vont être randomisées, avec des zones géographiques qui vont recevoir les recommandations nationales et des zones géographiques où on va mettre en place un dépistage massif et une initiation précoce du traitement. Et donc chacun de ces essais a en général deux grandes composantes interventionnelles, un dépistage généralisé et répété et une mise sous traitement immédiate. Alors, l'essai sur lequel je travaille, donc, c'est l'essai TASP ANRS 12249, qui est donc réalisé en milieu rural dans le KwaZulu-Natal. Donc c'est le petit point noir sur la carte. On est à environ à 2h30 de route de Durban. On est dans une zone rurale avec une prévalence moyenne de 25%, mais comme je vous l'ai dit, elle varie suivant les zones. Quand on est près de la route, on arrive parfois jusqu'à 50% de la population adulte. C'est une population qui parle essentiellement Zoulou, population pauvre, un taux d'emploi de l'ordre de 80%, de non-emploi de 80%. Et donc, alors ce que vous voyez sur cette carte, c'est que donc l'essai est réalisé à côté de l'Africa Center for Health and Population Studies. Vous avez en bas de la carte ce qui est marqué HIV Surveillance. C'est une zone qui est étudiée depuis 1999, annuellement, et qui est suivie. Et c'est là qu'on a pu mesurer, par exemple, l'évolution de la mortalité suite à l'arrivée des traitements. L'essai TASP, lui, est implémenté dans une zone à côté. Donc, on a des clusters, donc des zones géographiques. Certains vont être le bras contrôle, d'autres le bras intervention. Et c'est un essai qui est implémenté en différentes phases, puisqu'en fait, on a démarré avec 4 clusters qui ont ouvert en 2012, puis 6 clusters additionnels qui ont ouvert en 2013, pour une première phase de faisabilité et d'acceptabilité, et qui était aussi une phase pour mesurer ce qu'on peut techniquement mettre en place cet essai-là, avant aussi d'assurer un financement. Et depuis juin 2014, il est maintenant étendu à un total de 22 clusters, donc soit plus de 22 000 personnes qui vont être suivies. L'hypothèse de recherche de cet essai, c'est donc que le dépistage du VIH de tous les membres d'une communauté, suivi de la mise sous traitement immédiate de tous ou quasiment tous les individus infectés par le VIH, quel que soit leur statut immunologique ou clinique, préviendrait la transmission du VIH et réduirait l'incidence du VIH dans cette population. Donc on cherche vraiment à avoir un impact à l'échelle globale d'une population. L'objectif, c'est d'estimer directement l'impact du traitement ARV initié immédiatement après le diagnostic de l'infection par le VIH, quel que soit le niveau de CD4, sur l'incidence des nouvelles infections dans la population générale de la même région sur 24 mois. Donc on va mesurer directement l'incidence parmi la population. C'est donc un essai randomisé par cluster, avec des zones géographiques qui ont chacun une population d'environ 1000 à 1250 individus de 16 ans et plus. Et aléatoirement, ils vont être considérés comme bras contrôle ou bras intervention. On a deux interventions majeures dans l'essai. Un dépistage dit universel répété dans toutes les grappes, donc il est mis en place partout. Et puis l'initiation précoce du traitement uniquement dans le bras intervention. Donc en fait, le dépistage est assuré par du dépistage à domicile, répété tous les 6 mois, avec, si les personnes ne sont pas à domicile, des visites jusqu'à 5 visites sur un même round d'enquête, avec une proposition de dépistage rapide. Plus une collecte de sang par dry spot, puisqu'on a des mesures additionnelles pour la question de la mesure de l'incidence, plus un questionnaire, donc c'est un dispositif qui est relativement lourd. Tous les participants qui sont identifiés VIH+, sont référés vers des cliniques de proximité de l'essai. Donc en fait, dans la zone d'étude, on a à la fois 3 cliniques du département de la santé, on n'arrive pas dans une zone vierge, il y a beaucoup de choses déjà mises en place par le département de la santé, et en plus de ce dispositif du département de la santé, il y a 22 cliniques de proximité montées spécifiquement pour le projet. Donc, dans les grappes contrôle, on a un traitement antirétroviral selon les recommandations nationales, c'est-à-dire que quand le projet a été écrit, on était à 200 CD4 pour l'initiation. L'Afrique du Sud est passée à 350 CD4 en 2011-2012. Donc le projet a démarré avec une mise sous traitement à 350 CD4, plus femmes enceintes, plus personnes atteintes de tuberculose, plus personnes au stade 3 ou 4 de l'OMS, versus tout le monde est éligible au traitement dans le bras interventionnel. Et là, l'Afrique du Sud est passée à 500 CD4, qui est opérationnel dans la zone depuis janvier. Donc on est en train, le bras contrôle change à partir de janvier 2015 pour initiation à partir de 500 CD4. Donc les premiers résultats que je vais vous présenter concernent la phase 1 de l'essai, donc qui avait pour objectif de tester la faisabilité et l'acceptabilité de l'essai, avec donc des données collectées jusqu'au 31 mai 2014. Je ne présenterai aucun chiffre d'incidence, qui est le résultat principal de l'essai et qui ne sera mesuré qu'à la fin de l'essai. Et donc, ces premiers résultats temporaires ne concernent que 10 clusters, sachant que 4 clusters ont été ouverts en 2012, dans lesquels on a organisé 3 passages de dépistage à domicile, et puis 6 clusters qui ont ouvert en 2013, et dans lesquels, à la fin de la phase 1, seuls 2 passages de dépistage à domicile ont lieu. Donc je ne pourrais pas encore présenter, par exemple, de résultats sur dépistage répété à moyen terme. On a uniquement les premiers passages. Et donc la population éligible sur les données de la phase 1 concerne 12 894 individus âgés de 16 ans et plus et en capacité de produire un consentement éclairé. Juste pour information, donc on a cette deuxième phase de l'essai qui est en cours, qui a démarré en juin 2014, dans 22 clusters. Donc on a 12 nouveaux clusters en plus des 10 clusters initiaux, avec une population totale estimée entre 22 000 et 28 000 individus, et dont les résultats finaux sont attendus pour 2016, mais avec peut-être des résultats intermédiaires qui seront publiés avant, en fonction des recommandations du Data Safety Monitoring Board. Alors, je vais présenter plutôt les résultats de dépistage, puisque c'était la thématique d'aujourd'hui. Alors, le grand graphique, on va zoomer pour y voir un peu plus clair, mais on va regarder ce qui se passe entre le premier et le deuxième contact. Si on regarde ce qui se passe au premier contact, alors est-ce que c'est lisible ? Donc vous avez 12 894 individus qui sont éligibles, qu'on a pu enregistrer, mais on n'a pas été capable de tous les contacter. Au final, seuls les 3/4 ont été contactés au moins une fois, après 2 ou 3 rounds de passage à domicile. Autrement dit, on a quand même un taux de contact qui n'est pas si haut que ça. 77%, ça semble relativement élevé, mais par rapport aux objectifs que l'on souhaite atteindre, on a encore des difficultés à contacter. À domicile, n'est pas forcément le meilleur moyen de contacter tout le monde. Parmi ces personnes qui sont contactées, on a pu estimer, donc c'est le HIV ascertained, le statut VIH pour 77%. Alors pourquoi j'utilise le terme de HIV ascertained et pas HIV tested ? Puisqu'on a des individus qui connaissent déjà leur statut sérologique et vont dire « je suis séropositif ». Ces personnes-là n'ont pas forcément besoin de refaire un test du VIH, mais vont être référées vers une des cliniques de l'essai. Par contre, si une personne dit « je suis négatif », on ne prend pas en compte ce résultat et on pousse la personne, on l'invite en tout cas, à refaire un test de dépistage rapide. Autrement dit, on considère, si on regarde uniquement l'acceptabilité du test, il faudrait exclure les personnes qui connaissent déjà leur statut sérologique positif. Et donc, on va être plutôt autour des 80-85%. Mais sinon, si on est plus opérationnel, c'est-à-dire la proportion de gens pour lesquels on a pu établir un statut sérologique, on est sur un peu plus des 3 quarts, qui est encore une fois un taux élevé, mais encore insuffisant par rapport aux objectifs initiaux dont on avait en tête. Et donc, on peut noter que sur les personnes qui sont dépistées positives, en fait, 812 ont été testées positives par un test rapide, et 1508 nous ont dit « je suis positif », autrement dit, les 2/3 des personnes identifiées comme séropositives connaissent déjà leur statut au moment où on arrive au premier contact à domicile. Si on regarde maintenant le second contact, alors, parmi les personnes qu'on a testées VIH- au premier contact, donc parmi les personnes testées négatives au premier contact, vont-elles accepter de se faire retester? On voit qu'on arrive à recontacter les 2/3 de ces individus. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas encore eu beaucoup de recul, mais que quand on va mettre en place du dépistage à domicile tous les 6 mois, on ne va pas forcément arriver à contacter tout le monde tous les 6 mois. Et donc, si on arrive à les recontacter au round d'après, on n'aura qu'un an entre deux. Mais voilà, il va y avoir des enjeux qui vont être regardés lorsqu'on aura un peu plus de recul. Et 85% des gens recontactés acceptent un second test, ce qui est relativement élevé. En fait, la plupart des individus acceptent de se faire dépister à condition qu'on arrive à les contacter, ce qui est un des premiers enjeux. Par contre, on ne connaît pas encore l'acceptabilité à moyen terme, 3e, 4e, 5e contact, voire même plus. Qu'est-ce qui se passe au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans? Et on s'attend à ce qu'il y ait une fatigue qui apparaisse et qu'à un moment donné, autant les personnes acceptent de participer au début de l'essai, autant, avec le temps, on va avoir de moins en moins l'intérêt à se faire dépister très régulièrement. Un autre élément, c'est qu'il y a des personnes qui ont refusé de se faire tester au premier test, mais que l'on va revoir sur un contact ultérieur. Et donc, en second contact, parmi les personnes qui avaient refusé au premier contact, la moitié d'entre eux acceptent à ce moment-là de se faire tester. Autrement dit, avec 2 contacts, le taux de personnes dont statut VIH a été identifié au moins une fois monte de 77% après un premier contact à 89% après un second contact. Autrement dit, le fait de venir, d'avoir de multiples opportunités, va permettre aussi de récupérer des personnes qui, à un moment donné, ont refusé. Avec le temps, on aura probablement des personnes qui vont refuser systématiquement, mais qui vont, de temps en temps, accepter un test. Donc, à ce stade, sur la partie dépistage de l'essai, on voit que le dépistage à domicile est globalement accepté par les populations, à condition d'arriver à contacter les individus. Les premières analyses de facteurs montrent que le dépistage à domicile est moins efficace parmi les individus jeunes et actifs, et en particulier les hommes. On a plus de mal en fait à contacter par le dépistage à domicile. Et les taux d'acceptabilité sont également plus faibles parmi les personnes les plus éduquées, sachant que les personnes qui ont plus que le niveau lycée ont, dans cette zone-là, plus facilement accès à d'autres formes de dépistage. Encore une fois, le dépistage n'est pas disponible que par TASP. Autrement dit, le dépistage du VIH n'est pas suffisant pour atteindre 90% de la population testée au moins une fois par an, et donc il va être nécessaire d'étendre le dépistage avec d'autres offres. En particulier, des travaux ont montré que le dépistage mobile dans la même zone permettait d'atteindre d'autres populations, qu'il va falloir arriver à une forme de dépistage combiné. On parle de prévention combinée, et je pense qu'on peut aujourd'hui parler de dépistage combiné. Quelques éléments très rapides concernant l'entrée dans le soin, puisque le référencement après le dépistage est un élément important. La courbe verte montre que les personnes qui sont déjà en soins au département de la santé migrent assez facilement vers une prise en charge dans le cas des cliniques de l'essai. La courbe bleue, ce sont des personnes qui ont été précédemment dans le soin dans les cliniques du département de la santé, qui ne sont plus en soins au moment où on passe à domicile, et on voit qu'elles reviennent aussi de manière assez rapide dans les cliniques de l'essai. Donc le dépistage à domicile ne permet pas seulement de retester des gens qui ne connaissaient pas leur statut, mais aussi de re-référencer vers leur soin des personnes qui sont sorties du soin. Par contre, on voit que pour les personnes nouvellement diagnostiquées, qui est la courbe rouge, c'est beaucoup plus lent. Alors, pour aller vite, grosso modo, seule la moitié des personnes VIH+, qui n'étaient pas précédemment dans le soin, entre dans les cliniques dans les 6 mois, donc il y a un vrai souci autour du linkage to care, et un gros travail sur des interventions additionnelles d'accompagnement à l'entrée en soins sont nécessaires si on veut atteindre des niveaux particulièrement élevés, et ce sont des évolutions qui sont en cours de discussion dans l'essai. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le concept de la cascade des soins. On est dans une situation un peu particulière puisqu'on peut calculer la cascade à l'échelle de la population, puisqu'on a à la fois les données des cliniques du département de la santé plus l'ensemble des informations collectées dans l'essai. Donc on estime qu'on a au total 3751 personnes qui vivent dans la zone d'études et qui sont séropositives. Et on peut montrer qu'on a augmenté le pourcentage de personnes qui ont déjà été diagnostiquées, qui passe du coup de 73 à 86%. Mais de la même manière, on va augmenter la proportion de personnes qui vont revenir vers le soin, donc de gens qui sont retaining care. Et on a un impact aussi sur les nombres de personnes qui sont sous traitement et un impact sur les personnes qui ont une charge virale indétectable. Donc il y a une augmentation aux différentes étapes de la cascade, augmentation qui n'est pas forcément aussi importante que ce qu'on souhaiterait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, les parcours peuvent être complexes, c'est-à-dire que les personnes peuvent être déjà dans le soin au département de la santé, mais pas sous traitement. Le fait qu'on va les recontacter à domicile, ils vont changer de clinique, vont devenir du coup éligibles et vont démarrer un traitement. En fait, il y a plusieurs parcours qui sont possibles. Donc l'amélioration peut être le dépistage à domicile sur des personnes déjà diagnostiquées sert aussi à réamener des personnes dans un processus de soins. Par contre, si on réfléchit à l'objectif des 90-90-90 de UNAIDS, qui a été présenté ce matin, on cherche à avoir 90% de la population diagnostiquée. Alors, on n'en est pas très loin, 86%. 90% des personnes diagnostiquées sous traitement antirétroviral, il y a encore du chemin, on n'est qu'à 52%. Et enfin, 90% des personnes sous traitement avec une charge virale indétectable, on est à 85%, sachant qu'il y a des personnes qui viennent juste de démarrer leur traitement, on est à un point dans le temps. Donc c'est vraiment la notion de qu'est-ce qu'on va faire pour l'entrée en soins, sachant que le dépistage est une clé essentielle pour ça, puisque c'est notre point de contact qui va permettre de lancer les activités d'accompagnement. Il reste combien de temps ? 2 minutes ? Donc juste pour dire qu'il va s'agir de réfléchir à quelle stratégie de dépistage combinée serait la plus efficace pour contacter toute la population, acceptable pour les individus sur le long terme, faisable pour les professionnels de santé et le système de santé en général pour un passage à l'échelle, coût efficace et bien sûr soutenable dans la durée. On va passer. Peut aussi se poser la question, dans différents contextes, faut-il aussi combiner le dépistage du VIH avec d'autres pathologies pour avoir une mutualisation de moyens, mais également la santé ne se réduit pas au VIH. Et dans d'autres contextes, je pense par exemple à l'Afrique de l'Ouest, où les hépatites virales, par exemple, ont des prévalences beaucoup plus élevées que le VIH. Il y a un vrai retard sur le dépistage des hépatites virales. Il y a des enjeux. Peut-être aussi, on parle souvent que les hépatites B se transmettent pendant l'enfance. En fait, on voit aussi des contaminations à l'âge adulte. Donc, il y a probablement des choses à réfléchir sur la combinaison du dépistage avec d'autres infections. Donc je vais passer, mais ce que je voulais rappeler, c'est que là, j'ai présenté des choses sur l'Afrique australe. Dans d'autres contextes, et je pense à l'Afrique de l'Ouest où je travaille, c'est un autre contexte épidémique. C'est des épidémies qui sont de l'ordre de 2 à 5% population générale, mais qui sont surtout concentrés dans des sous-populations. Et forcément, dans ces contextes-là, on ne va pas faire du dépistage à domicile tous les 6 mois. C'est complètement irréalisable. Et donc, du coup, il va falloir adapter différentes offres de dépistage dans ce contexte. Et donc, j'avais d'autres questions, mais qu'on n'aura pas forcément le temps. Je pense que ce qui va être important dans ce qui était dit ce matin, c'est qu'il va falloir arriver en tout cas à trouver un équilibre entre un accès universel au dépistage volontaire, autrement dit que chaque individu puisse, s'il le souhaite, pouvoir faire un dépistage du VIH. Or aujourd'hui, dans certaines études, on voit bien qu'il y a du dépistage avorté, c'est-à-dire des personnes qui veulent faire une démarche de dépistage et pour une raison X, Y ou Z, la démarche ne va pas aboutir. Et en même temps, cela doit être comblé avec des actions de dépistage ciblées pour toucher les populations à plus forte incidence. Donc, pour conclure, la thématique Test and Treat et l'objectif 90-90-90 de NUSIDA ont relancé la question du dépistage du VIH. Pour autant, le dépistage n'est qu'une des composantes de la réponse globale, mais c'est quand même une étape préalable, indispensable avant toute prise en charge, et une opportunité de prévention, aussi un moyen pour des personnes qui sont déjà dépistées, mais en dehors des soins, de ramener des personnes vers le soin. Dans le cas des essais de type test and treat, je pense à l'essai TAS que je vous ai présenté, mais les autres essais ont les mêmes types de problèmes. Ils étaient principalement basés sur du dépistage à domicile. Il est nécessaire d'étendre à une offre de dépistage plus globale et notamment d'intégrer du dépistage mobile, peut-être plus de communication sur les offres de dépistage disponibles en clinique et un certain nombre de stratégies et combiner à des actions d'accompagnement et d'entrée dans le soin, puisque la question du référencement est aussi indispensable que celle du dépistage et elles sont liées. La recherche autour du dépistage universel est quand même aujourd'hui centrée sur l'Afrique australe et il y a un vrai besoin, en tout cas, de travaux pour l'adapter à d'autres contextes épidémiologiques. Je vous remercie.